Le journal Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour.
À la une ce matin, l'insaisissable variant Omicron, déjà détecté dans plusieurs pays d'Europe, qui se protègent comme ils peuvent, des mesures restrictives en France, même pour les personnes vaccinées. Israël qui ferme ses frontières pour 2 semaines. Mais hier, à l'aéroport d'Amsterdam, les tests ont tourné au cluster. Les autres titres.
Le match de la honte au Portugal avec une équipe décimée par le Covid. Il n'a été interrompu que lorsque l'équipe de Belenenses était réduite à 6 joueurs. Laetitia Bernard nous racontera cette histoire dans le journal des sports. Un nouveau féminicide sur fond de dysfonctionnement. Une femme a été tuée par son ex-compagnon à Épinay-sur-Seine. Elle possédait un téléphone grave danger mais ne savait pas que l'homme était sorti de prison. Une réunion européenne à Calais tout à l'heure pour lutter contre les passeurs. Et puis vous êtes plutôt Nordman ou Épicéa? C'est la question du moment, à l'heure de choisir le sapin de Noël.
8h20, le grand entretien avec Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, la Guadeloupe. Fallait-il ouvrir le débat sur l'autonomie? Le variant Omicron va-t-il ruiner nos efforts contre le Covid? Et puis les grandes manœuvres dans la majorité qui lancent demain un nouveau mouvement.
Le monde ne peut pas être hermétique face aux nouveaux variants du Covid, déjà détectés aussi en Australie, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en République tchèque. Omicron le sera sans doute en France dans les prochains jours. Les pays multiplient les restrictions pour s'en protéger au mieux, on va y venir, mais il y a encore des situations ubuesques. Hier matin, à Amsterdam, 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs à leur arrivée. Sur 600 passagers qui sont restés entassés ensemble durant de longues heures. Un véritable cluster en puissance, comme le raconte un passager français, Anatole Kramer.
Nous sommes restés 6 heures dans l'avion avec les gens qui commençaient à s'agiter et à circuler sans masque. Puis on a fini par nous donner l'autorisation de débarquer pour nous envoyer dans une partie isolée de l'aéroport pour que l'ensemble des passagers soient testés. Rien n'était organisé, pas de gel mis à disposition, pas de masque mis à disposition. On était 300 par salle d'attente, serrés les uns contre les autres. On n'avait pas mangé depuis donc le matin 8h et ils ont fini à 18h par nous apporter des sandwichs dans des cajots, des sandwichs sans emballage individuel. On a tous plongé les mains dans les mêmes cajots, c'était effarant. Le résultat des tests à 10h est arrivé. 10% des passagers étaient positifs. On a passé la journée ensemble, les uns contre les autres. Je suis moi-même très inquiet parce que j'ai vu des gens qui ont été déclarés positifs, avec qui j'ai discuté et qui m'ont postillonné dessus. Là, je fais extrêmement attention, je me lave les mains, je garde mon masque en toutes circonstances et j'ai prévu de me faire tester lundi. C'est une bombe à retardement qui pourrait se disséminer dans l'ensemble de l'Europe. Ouais.
Témoignage édifiant recueilli par Benjamin Recouvreur. Les pays s'isolent comme ils le peuvent. En France, toute personne cas contact d'une autre testée positive au variant Omicron devra être isolée, même si elle a déjà été vaccinée. Le Royaume-Uni impose un test PCR à toute personne 2 jours après son arrivée et un isolement jusqu'au résultat. Israël ferme carrément ses frontières pour 2 semaines. Nous y serons dans le journal de 9h. Mais cela ne règle en rien le fond du problème, à savoir l'apparition régulière de ces variants. Anne Sénéquier co-dirige l'Observatoire de la Santé mondiale à l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Lorsqu'on regarde l'historique de toutes les émergences des variants, cela a toujours été dans une région du monde qui n'était pas vaccinée. Variant Alpha, Royaume-Uni, qui était au tout début de sa campagne de vaccination. Variant Beta, en Afrique du Sud, qui encore aujourd'hui n'a pas 25% de sa population qui est vaccinée. Variant Delta en Inde, pareil. Variant Gamma au Brésil, pareil. Donc tant qu'on n'arrivera pas à inonder le monde de vaccins pour stopper les transmissions, la circulation de ce virus, on va avoir un effet boomerang et à chaque fois courir derrière un nouveau variant, d'autant plus qu'en Afrique du Sud, il y a aussi une très grande prévalence du VIH, c'est-à-dire des gens immunodéprimés, où le virus va pouvoir rester plus longtemps chez un même hôte et multiplier la possibilité des mutations, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive avec un variant avec 30 mutations.
Et pendant ce temps, on en est à la 3e dose. Depuis hier, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans qui ont fait leur 2e injection il y a au moins 5 mois. C'est déjà la ruée dans les centres. Mais comment fait-on en zone rurale? Reportage à la maison médicale de Nantia, en Haute-Vienne, Thomas Vinclair.
Tu viens pour la 3e piqûre, Jean?
Oui.
Jean a 84 ans et c'est le doyen d'un petit bourg d'une dizaine d'habitants.
Comme ça, tu seras bien un jour et puis tu pourras aller voir la voisine. Parce que sinon, on n'a pas le droit d'aller voir sa voisine.
Ah bon?
C'est l'adjoint de la commune d'à côté qui a amené l'aîné.
Il sert de chauffeur à tous les braves gens.
Voilà, c'est mon docteur, oui. Avec ça, il va me faire vivre 60 ans.
Pour Roger Michel, 87 ans, c'est aussi l'heure de la 3e dose.
Et c'est très bien organisé. Tout le monde s'y met, les infirmières, les docteurs, les gens n'entendent pas, c'est rapide.
Professionnels et bénévoles se sont mobilisés pour vacciner à tour de bras dans cette petite maison médicale.
À tour de bras, oui, le haut des bras, hein, si possible. Je suis le docteur Resson-Marcel et j'ai travaillé dans cet établissement pendant 38 ans. Ça fait 9 ans que je suis à la retraite, mais j'ai repris du service pour les vaccinations. Et donc, déjà, rien que dans la matinée, nous en avons 140. C'est pour ça que c'est un peu bousculé.
Alors, tout le monde n'a pas pu réserver son créneau, mais les doses vont vite arriver, même en milieu rural. Arnaud David est le directeur de l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin.
On attend pour l'instant les approvisionnements, que les personnes ne s'impatientent pas, mais elles pourront retéléphoner courant de semaine prochaine pour avoir de nouveaux rendez-vous.
Et ces rendez-vous, ça se passe sur le site Doctolib ou tout simplement en contactant son médecin traitant ou bien sa pharmacie.
Thomas Vinclair de France Bleu Limousin. Aux Antilles, toujours des tensions en Guadeloupe et en Martinique. Après le contre-feu du gouvernement sur l'autonomie, les élus guadeloupéens demandent la venue d'une délégation interministérielle et beaucoup d'habitants considèrent que ce sujet n'est vraiment pas une urgence.
France Inter, 8h06, une femme a été tuée par son ex-compagnon en Seine-Saint-Denis et ce drame aurait dû être évité.
Une mère de famille de 44 ans tuée à coups de couteau au pied de son immeuble. Vendredi soir à Épinay-sur-Seine, il l'attend en bas de chez elle. Son ancien compagnon de 51 ans, condamné en juillet dernier à 6 mois de prison ferme pour des violences et menaces contre elle, avait été libéré le 17 novembre dernier. Cette femme avait pourtant bénéficié de plusieurs mesures. L'incarcération de cet homme pour n'avoir pas respecté la mesure d'éloignement. Elle possédait un téléphone grave danger et pourtant, il y a bien eu un dysfonctionnement, Ariane Gressel.
En octobre dernier, cette mère de famille se rend compte que son ex-compagnon se trouve en bas de chez elle. Il n'a pourtant pas le droit de l'approcher après avoir été condamné pour des violences à son égard. La victime déclenche donc le téléphone grave danger dont elle est équipée. L'appareil permet, en appuyant sur une seule touche, de prévenir les policiers ou les gendarmes. Son ex-conjoint voit alors une partie de son sursis révoqué et part en détention. Jusque-là, toutes les mesures prévues ont donc été appliquées. La semaine dernière, l'homme est libéré et c'est là qu'il y a eu un dysfonctionnement, estime Ernestine René. Elle est responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis.
Le problème que nous avons dans cette situation-là, c'est que madame n'a pas été prévenue. Comme c'était 3 semaines avant la sortie prévue, elle n'avait pas son téléphone sur elle puisqu'elle pensait qu'elle était en sécurité. Les hommes violents sont dangereux et imprévisibles. Et donc, il faut absolument prévenir la personne qui a été victime, en l'occurrence là, sa compagne, son ex plus exactement, qu'il va sortir. Si elles ont le téléphone, elles le prennent sur elles et elles peuvent être protégées. Et malheureusement là, c'est ce qui ne s'est pas produit.
Ernestine René appelle à l'instauration d'un protocole pour que les femmes soient prévenues quand leur conjoint ou ex-conjoint sort de détention. Il n'existe pas à ce stade de consignes au niveau national.
Et sachez que l'homme s'est rendu au commissariat d'Épinay-sur-Seine après le meurtre. L'affaire Nicolas Hulot est-elle en train de déstabiliser la campagne de Yannick Jadot? L'équipe du candidat écologiste annonce que Mathieu Orphelin, leur porte-parole, a été mise en retrait pour sa proximité avec l'homme accusé de viol et d'agression sexuelle. Mathieu Orphelin n'a pas du tout la même version. Il affirme lui avoir dit dans la semaine à Yannick Jadot qu'il souhaitait mettre fin à ses fonctions parce qu'il n'adhère pas à ses choix stratégiques et que sa campagne ne décolle pas. Il affirme par ailleurs son soutien entier aux victimes. Comment éviter de nouveaux drames dans la Manche? Les Anglais ne sont plus les bienvenus, mais une réunion des ministres de l'Intérieur de plusieurs pays européens aura lieu tout à l'heure à Calais autour du drame des migrants. Et avec Gérald Darmanin, il y aura 3 axes, Pierre Benazet.
Les décisions opérationnelles seront prises par les 4 pays, mais la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, devrait proposer un soutien européen sur 3 axes qui intéressent particulièrement l'Union européenne. Pour le combat contre les réseaux et les filières de passeurs, pour l'augmentation de la coopération policière et de l'échange d'informations, et enfin pour la protection et la surveillance de ce qui est désormais devenu une frontière extérieure de l'Union européenne. D'où d'ailleurs la présence du directeur de Frontex, puisque les frontières extérieures de l'UE sont le terrain d'action de l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières. De son côté, le commissaire européen chargé de coordonner les questions migratoires, Margaritis Kinas, a estimé hier qu'il était grand temps que le Royaume-Uni prenne enfin ses responsabilités car il lui revient de résoudre ses problèmes relatifs à l'afflux de migrants et d'organiser lui-même le contrôle de ses frontières. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
C'est un jeu qui se veut d'abord éducatif mais qui casse les codes. Un homme condamné à 7 ans de prison pour trafic de stupéfiants a créé un jeu de société baptisé « Remise de peine » pour prévenir la délinquance, constatant que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne redoutaient plus la case prison. Il l'a présenté dans le quartier de Bréquigny de Rennes. Mathilde Dehimy l'a suivi.
Les jeunes ne sont pas venus au rendez-vous, mais les mères, elles, ont des choses à dire sur les trafiquants.
10-11 ans,
Il n'y a plus rien qui leur fait peur, quand même. Ils ne se cachent plus. On est là avec nos enfants, on est dans les parcs.
En bas de chez moi, c'est la coque. La dernière fois, on est tombé sur une seringue avec du sang à 8h30 du matin.
La prison ne fait pas assez peur aux jeunes, regrette Oda, qui a connu les parloirs.
Pour eux, ils sont logés, ils sont nourris, donc ils sont à l'abri. Donc c'est comme ça qu'ils voient les jeunes aujourd'hui.
Le jeu s'appelle Remise de peine.
Il y a un dé, oui, il y a un dé.
Arbi Madaj l'a inventé lors de son année à l'isolement.
Posez la carte devant vous, comme ça.
Un jeu de loi version prison.
Vous avez les cases vertes et les cases rouges. Les cases vertes correspondent aux efforts qu'on effectue en détention pour bénéficier de remises de peine supplémentaires. Travailler, passer le code de la route.
Elles sont surprises de découvrir son passé.
Je suis tombé. Ouais. Oh, c'était du trafic, moi.
Une légitimité pour parler aux jeunes, dit Yasmine.
Nous, on est là, on essaye de diriger les jeunes comme on peut. Ouais, mais toi, tu as été à l'intérieur, tu as vécu tout ça, tu vois. Tes conseils à toi, je pense que c'est des conseils précieux.
Pas beaucoup de personnes qui sortent indemnes d'une grosse peine de prison. Santé, psychologiquement. Moi, je suis sorti, j'avais pas de logement, j'avais pas de travail. Donc, on me libère en plein confinement. J'allais faire quoi, en fait ?
Arbi Madaj ne cache rien de ses erreurs, de la difficulté à se réinsérer. Les maires l'encouragent désormais à se lancer sur les réseaux sociaux et à faire de la prévention dans les collèges.
Reportage Mathilde Dehimi. Ça sent le sapin. Un peu moins d'un mois de Noël. Beaucoup vont en acheter un dès aujourd'hui. Le marché est énorme. 6 millions de sapins naturels sont vendus chaque année en France. Et on ne parle pas des arbres artificiels. C'est un marché qui représente plus de 170 millions d'euros. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Premier constat, Épicéa ou Nordman, le match est plié.
Oui, 80% des sapins naturels vendus sont des Nordman, prix moyen 28 euros. On apprécie ces épines qui ne tombent pas trop vite. Et la tendance est aux grands conifères. Plus de 40% font plus d'1,50 m. Côté Épicéa, les ventes sont en baisse, même s'ils sont un peu moins chers, autour de 21 euros. Les acheteurs sont sensibles à la provenance locale, avec des labels qui garantissent cette origine France. Et si les sapins sont encore achetés en majorité dans les grandes surfaces, le pourcentage baisse au profit des achats directement chez le producteur.
Naturel ou artificiel, Agnès, le match est plié là aussi.
Les Français plébiscitent en effet le sapin naturel à plus de 80%, des sapins qui sont plus de 90% à recycler, en les rapportant les fêtes passées dans des points de collecte ou en les replantant. Le sapin artificiel séduit encore malgré tout, il est en tête des produits les plus demandés cette fin de semaine sur Le Bon Coin. Mais selon une étude canadienne, pour amortir l'impact sur l'environnement de votre sapin en plastique fabriqué en Chine, il faut que vous le gardiez 20 ans. Et puis il y a une tendance plus récente, celle des sapins fabriqués en palettes de bois recyclées ou en bois flotter, tendance qui fait les beaux jours des réseaux sociaux.
Oui, mais ils ne sont pas franchement faciles à replanter, ceux-là. Merci Agnès.
8h13, 100% naturel, 0% artificiel, ce sont les sports. L'actualité sportive avec vous, Laetitia Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laetitia. Et on commence par cette histoire et cette rencontre en mode on achève bien les chevaux.
Oui, c'est au Portugal, à Lisbonne plus exactement. Le club de Belenenses a de quoi être écœuré ce matin. Pour affronter le géant du Benfica hier, il leur manquait quand même 14 joueurs dans l'effectif à cause du Covid. Du coup, le club n'a pu aligner qu'une équipe de 9. Je rappelle qu'au football, normalement, c'est 11. Hein.
Oui.
Résultat des courses, un but contre leur camp dès la première minute. Ensuite, le Benfica sans la moindre pitié qui mène 7-0 à la pause. Après la mi-temps, il n'y avait plus que 7 joueurs pour Belenenses de retour sur la pelouse et puis 6 parce que l'un d'eux s'est blessé. L'arbitre a quand même sifflé la fin du match anticipé à la 48e minute. Aucune rencontre ne peut continuer si une des équipes a moins de 7 joueurs.
Quelle folie. Foot toujours, Laetitia, avec ses propos, on va dire, philosophiques.
Oui, tenu par un joueur lillois, écoutez.
Ah, c'était un match de merde avec une pelouse de merde. Voilà.
Voilà, un résumé très très classe. Non,
on dit tellement que les joueurs ne disent rien après les matchs, là au moins c'est clair.
Là c'est efficace, on a bien compris que Benjamin André, qui était interviewé pour Prime Video, n'était pas satisfait du résultat. Lille a fait match nul, un partout contre Nantes. Et autant Lille fait de très belles choses en ce moment en Ligue des Champions, autant en Ligue 1, le champion de France en titre, c'est vrai, est à la peine. Déjà 7 matchs sans victoire.
On passe au rugby avec un joueur qui a préféré renoncer à ses vacances pour être aux côtés de son équipe ce soir.
Et oui, c'est l'international bordelais Cameron Wauki, vainqueur face aux All Blacks la semaine dernière avec le 15 de France. Il aurait pu récupérer un petit peu, mais non, il préfère être là pour affronter le Racing 92 et aider son club à conforter sa deuxième place au classement. Il se reposera plus tard.
C'est un match important pour nous, c'est un match de reprise et comme je me sens bien en ce moment, j'avais envie de rester sur cette continuité-là, donc j'ai décidé de décaler mes vacances. On a profité avec tout le groupe France jeudi, samedi, et puis voilà, dimanche, on est tous repartis dans nos clubs et voilà, je pense que chacun est redescendu. Donc moi, dès que je suis arrivé à l'entraînement, j'ai tout de suite basculé sur le Racing.
Et ce matin, c'est toujours le Stade Toulousain en tête du top 14 après une victoire sur Brive hier soir 18-11.
Et puis Laetitia, un plaidoyer pour la place du sport, celui de la présidente du Comité national et sportif français.
Brigitte Henriques, qui fait le point 100 jours après sa nomination, où en est la pratique sportive en France après une saison mise à l'arrêt par la situation sanitaire? C'est un enjeu de société majeur, rappelle-t-elle.
Il y a une dynamique qui s'enclenche, on revient dans les clubs, en tout cas pour les pratiquants. Par contre, on reste à moins 20% par rapport effectivement à 2009-2020. Ça veut dire qu'il y a des pertes économiques pour nos clubs. Et le sport, c'est pas une charge, c'est un investissement. Ça doit permettre de faire tellement d'économies au niveau de la santé avec la sécurité sociale. On a une véritable bombe à retardement avec la lutte contre la sédentarité. Qu'est-ce qui permet de lutter contre ça? C'est le sport. Ça commence dès le plus jeune âge. À l'école, on sait qu'on a les 30 minutes. Voilà, c'est une première étape, mais il faut aller encore plus loin. Il y a 13% de perte de licence. Du moment où on rentre à l'université, il faut qu'à l'université, on ait aussi l'obligation de l'EPS. Dans tous les cursus, quels qu'ils soient, c'est urgent.
Voilà l'appel de Brigitte Henriques pour le sport français.
Les sports avec Laetitia Bernard dans le journal de Christelle Robière. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Prévision de Jean-Michel Golinski.
Malgré une bordure méditerranéenne ensoleillée et une amélioration progressive du ciel sur l'ouest du pays, dans l'ensemble, l'ambiance reste hivernale et menaçante, avec un flux de secteur nord bien marqué, témoin le vent assez fort près de la Manche, de l'océan et du Languedoc-Roussillon à la Corse. Les températures matinales de 0 à moins 2 degrés sur les régions de l'est, entre 1 et 4 plus à l'ouest, et le régime de pluie ou de neige mêlée qui survole les plaines de la moitié est du pays, et la neige qui continue à tomber à partir de 300 mètres d'altitude sur les Pyrénées, le Massif central, le Mont-Vent et du Grand Est au nord des Alpes. En journée, il va continuer à neiger sur tous les massifs à partir de la très basse altitude. Conséquence, les 11 départements montagnards en orange vont le rester au moins pour la journée. Sur la façade atlantique, les pluies vont s'estomper, mais plus à l'est. Et sur la Corse, la journée va rester maussade avec, comme hier, par intermittence, des flocons possibles jusqu'en plaine.
Jean-Michel Golinski, Météo France.